Les ouvriers paria. Chantier en cours, de traduction en français du roman de l'écrivain américain Charles Fort, d'Outcast Manufacturer, publié en 1909. Lecture faite par un logiciel de synthèse vocale. Chapitre 2. Le matin. La cuisine des Maefi, deuxième pièce depuis la fenêtre de façade, l'éclairage au gaz, alimenté par la distribution centrale, brûle au-dessus d'une table ronde, recouverte d'une toile cirée blanche, quatre chaises courantes et une chaise haute autour de la table, une assiette retournée à l'envers face à chaque chaise, une bouteille de lait remplie d'eau au milieu de la table. 8 heures, petit déjeuner tardif, parce que Monsieur Maefi n'a pas un travail très astreignant. Dans la salle des machines d'un hôtel, où il travaillait, il avait vu un homme tué. Demande des dédommagements, l'hôtel affirme que l'accident a été la conséquence de la propre négligence de l'homme. Monsieur Maefi le témoin, l'hôtel se montre très aimable et très coulant avec Monsieur Maefi. Rideau rouge à chaque porte de la cuisine, cuisinière du côté est de la pièce, et un placard à rideau rouge d'un côté de la cuisinière, un fût de bois recouvert d'une bâche rouge de l'autre côté de la cuisinière. Avec un bébé dans les bras, et suivi par une petite fille, Madame Maefi entra depuis la pièce de devant. Madame Maefi dans une cape de ses extravagantes, d'une extravagance appuyée, d'un imprimé qu'on voit généralement sur le papier peint. Madame Maefi assit le bébé dans la chaise haute, et prit une poêle à frire dans le placard, pour la poser sur la cuisinière. Monsieur Maefi, en chaussettes, les chaussures dans une main, entre dans la cuisine depuis la chambre entre la cuisine et la chambre de cime. Le visage morose de Monsieur Maefi, un visage désastreux avec une barbe jaunâtre au poil en broussaille, désolé, comme une décharge, en partie recouverte de joncs en hiver. Monsieur Maefi posant ses chaussures à côté de la chaise, la plus près de la porte de la chambre, puis rejoignant la cuisinière, tire l'étouffoir. Ne soyez pas aussi impertinent, dit Madame Maefi, poussant l'étouffoir. Je suis en train de faire du feu. Ne soyez pas aussi impertinent dans une cuisine. On vous voit trop. Monsieur Maefi, arpentait la cuisine de rideau en rideau. Le démon emporte les locataires, dit Madame Maefi, elle donna une gifle sur les mains du bébé, main qui était tendue vers la bouteille d'eau, puis elle alla à la porte de Sim, toqua, porte qui s'ouvrit instantanément. Sim suit sa logeuse à la cuisine, les paupières lourdes de Sim, sa bouche irrégulière, avec la lèvre supérieure légèrement de travers, comme si elle était relevée par un cure-dent invisible entre ses dents. C'est le jeune homme, dit Madame Maefi. Bien sûr, pourquoi avez-vous pris la peine de vous couvrir? Monsieur Maefi s'était retourné rapidement, et faisait lentement les 100 pas vers les rideaux de la pièce de devant. Il garda le dos tourné à Sim, mit ses mains dans ses poches, et sifflota, ce qui confondit Sim qui s'assit d'abord sur une chaise, sembla penser que Madame Maefi indiquait une autre chaise, rebondit d'une chaise à une autre, s'adossa sur une chaise, comme s'il pensait qu'il n'aurait pas dû s'asseoir, avant que le petit déjeuner soit prêt, puis en train de se recroqueviller très en avant sur la chaise de façon à ne pas être penché. Sur le passage de la déambulation de Monsieur Maefi. Si on pouvait manger dans une cuisine sans toile cirée sur le sol, dit Madame Maefi, d'une voix haute, avec affectation. Le propriétaire nous a promis un nouveau plancher, et aucune toile cirée ne recouvrirait ces planches, mais les propriétaires ne font rien pour nous, ils sont très libres. Oh, c'est très vrai. Sim rit d'un petit rire idiot et gêné, se pencha en arrière, se recroquevilla vers l'avant, fit des croix et des signes de multiplication avec le couteau et la fourchette, les mains dans les poches, les mains hors des poches. C'était très différent. Nous vivions avant, et la chance d'avoir tous les tâches pour nous, en fait, il n'y avait presque rien sauf des docteurs, et des dentistes et des entrepreneurs de pompes funèbres dans cette rue. Comment aimez-vous vos œufs, monsieur? Moi? Oh, peu importe. S'il m'examine une fourchette, puis brusquement repousse la fourchette. Certains les aiment durs et certains les aiment baveux, et certains les aiment entre deux. Sim rit de son petit rire idiot. Madame Maïfi mit des œufs dans boîte de conserve de tomates remplies d'eau bouillante. Sur la chaise haute, près de la cuisinière et face à la chaise de Sim, le bébé était assis, un bébé avec un double menton, et la tête chauve et le front haut et intellectuel d'un sénateur des États-Unis, du sénateur idéal des États-Unis, l'enfant sénatorial en train de regarder Sim, et souriant avec bienveillance. Sim retourna son assiette, joua avec son couteau, cessa brusquement de jouer avec son couteau, vit un plat de beurre, et, pour le plaisir de n'importe quel petit fait, qui signifierait la simplicité et le chez-soi, il prit du beurre. Oh, regarde, maman, tout le beurre qu'il prend. Venant de Mademoiselle Maïfi, une enfant avec des cheveux coupés courts, avec les sourcils à peine perceptibles, avec des oreilles pressées contre la tête avec du pansement adhésif. Vous ne devez pas me dénoncer. Sim encore plus embarrassé. Madame Maïfi était comme une salle entière faisant frire des œufs et bouillir des œufs, sac à papier peint. Madame Maïfi comme une salle sens dessus-dessous. Elle parlait sévèrement à Monsieur Maïfi. À regarder autour et voir s'il y a autre chose qui ne convient pas. Je n'ai jamais vu un tel homme, pas un moment tranquille depuis qu'il est revenu. Rien ne lui convient. Si tout était si raffiné où vous étiez, c'est malheureux que vous n'y soyez pas resté. Faites comme chez vous, Monsieur Rack. Oh, moi? C'est ce que je fais toujours. C'est ma nature. Asseyez-vous, en plaisantant grossièrement avec son mari. Si je vous caresse avec cette poêle à frire, on supportera moins de conneries de votre part. Monsieur Maïfi s'assoit à côté de Sim, en sifflotant encore. Puis il grogna parce que sa femme lui a posé sa tasse de café à sa gauche, au lieu de sa droite. « Vous, vous sacré vieil ex-détenu, oh !» vous cria Madame Maïfi. Puis à Sim, « Oh, Dieu pardonne à mon âme, mais on devient si rude dans les immeubles. J'en suis sur les fesses depuis que je vis dans les immeubles. Il y a une telle vulgarité ici, Monsieur Rack. Je ne dors pas pendant des nuits de ma peur d'être dans la même maison que de tels voyous, tout en versant du café, allant secouer la poêle à frire. Vous ne devez compter que sur vous-même, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter, monsieur. Il y a 16 ans dit que j'ai une démarche fière, et que ça me tient à l'écart. Laissez-les, c'est comme ça que je suis. Pas du tout. Dissime. Monsieur Maïfi assis avec son menton à la barbe en broussaillant foncé entre deux épaules minces et soulevées. Il mélangeait son café, devant presque s'étirer jusqu'à lui, tellement il était assis enfoncé sous la table. Puis il se tourna sur sa chaise et mit ses chaussures. « Restez assis et prenez un bol de café, » dit-il à sa femme, en parlant avec les lèvres immobiles. « Oh, mon Dieu !» De la voix aiguë, affectée de Madame Maïfi, « Oh, maintenant, je ne peux imaginer y toucher, maintenant que vous m'avez dit bol. Oh, mon Dieu, quoi que ce soit dans un bol c'est si vulgaire. Je ne pourrais pas, mon appétit est parti, maintenant que vous m'avez mentionné un bol. Je devrais vous taper la patte, à Mademoiselle Maïfi, vous allez arrêter ça, je vous le garantis. Non, non, je fais pas ça Hélène, ma chérie. Maman ne le répétera pas, Hélène. Et, à Monsieur Maïfi, ne prétendez pas me dire de m'asseoir dans ma propre maison. Je m'assoirai ou me lèverai juste comme j'en ai envie, dans ma propre maison. Elle fait glisser les œufs frits de la poêle à son assiette. Monsieur Maéfi, ses épaules soulevées presque jusqu'à ses oreilles, ses coudes étalés très écartés sur la table, taillade les œufs avec son couteau, les coupe finement et coupe furieusement avant de manger. Des œufs durs pour Sim, et Sim casse maladroitement les coquilles des œufs, les mains nerveuses de Sim, des mains qu'il met même dans ses poches, mais aussitôt il les sort pour continuer à casser les coquilles. Sim pose sa cuillère, puis la saisit, parce qu'elle a touché l'assiette de Monsieur Maléfi. Une femme qui sort de la pièce de devant, une autre locataire de la maison, entre dans la cuisine, une femme qui ne porte pas de chemisier, mais tient, au niveau de sa gorge, une serviette autour de ses épaules. Bonjour, Monsieur Maléfi. Monsieur Maléfi leva les yeux au-dessus des rideaux et siffla. Excusez-moi, Madame Maéfi, je pensais que vous étiez seule, en jetant un coup d'œil à Sim, mais si vous l'avez aujourd'hui, pouvez me prêter votre eau savonneuse, après que vous en ayez terminé? Vous pouvez l'avoir et bienvenue, dit Madame Maéfi cordialement. Quel culot de sa part. Après que la femme soit partie. Tellement peur qu'il manque quelque chose. N'importe quelle excuse pour rentrer voir quel nouveau pensionnaire nous avons. Oh, maintenant le bébé. L'enfant sénatorial commence à rugir et à marteler, avec une tasse, le plateau de la chaise haute. Oh, regarde le monsieur, bébé. Madame Maéfi retire la tasse, avec elle désigne Sim. Oh souris bébé. Regarde le monsieur. Sur ce le sénateur regarda plus attentivement Sim, ria sarcastiquement, mais après souria avec indulgence. Après quoi Sim se sentit obligé de dire, « C'est un beau gros bébé. Quel âge a-t-il ? » Et appuyant sur son étonnement quand on lui dit, bien que ne sachant pas si elle devait considérer l'âge, comme étonnamment élevé ou étonnamment jeune. Il essaya d'avoir l'air bienveillant, mais renonça, tant était grande la supériorité de l'allure noble et intellectuelle du bébé. « Donne-moi un penny !» cria Mademoiselle Maéfi, qui restait assise sur le sol, chantant des morceaux incohérents tels que Mary est allée à l'église avec son bébé dans une malle, et a nourri le cheval de côtelettes de porc. « Donne-moi un penny !» Rac, chac, jac, snack. Oh, quel nom! Est-ce que c'est son nom maman? Quelqu'un d'autre dans la pièce de devant. Une femme trapue tenant des haricots verts dans son tablier relevé, apparaît entre les rideaux rouges, demandant, « Vous voulez me voir, Madame Maéfi? Pas du tout, Madame Schufelt. Et qui vous a dit ça? C'est mon petit garçon qui dit ça, fixant Sim mal à l'aise. Alors ce sont des mensonges que votre petit garçon vous raconte madame. Il l'a fait? Je vais corriger ça. Il va recevoir une correction pour avancer dans la vie. Madame Schufelt court vers le hall, s'adressant en bas des escaliers, comme s'il y avait un petit garçon, viens ici, si tu me dis encore de telles choses. Que je ne t'attrape plus à me dire des choses pas vraies. Donne-moi un penny. Criait Mademoiselle Maéfi, saisissant le bras de Sim et le secouant si férocement, un pansement adhésif se détacha, et une de ses oreilles bondit hors de captivité. « Vilaine, vilaine, tu ne dois pas parler ainsi au monsieur, oh, prends garde ou l'homme t'emportera avec lui, bébé. » Monsieur Maéfi se lève, et Sim lui dit maladroitement, « Bonne matinée. Je ne suis pas encore parti. » Monsieur Maéfi rit lugubrement. Oh, excusez-moi. Monsieur Maéfi fait les 100 pas et sifflote. Quand Sim descendit au bureau de la Universal Manufacturing Company, il n'y avait aucun cliquetis de machine à écrire, et pas de piétinement d'employés affairés. La porte de la pièce de devant, de l'est, fermée, et Sim toquant et toquant. Mais personne n'apparaissant. Sim sort pour attendre sur le perron. La maison ce matin était une maison cataracte. Le battement du linge qu'on lave, qu'on n'entendait pas les fenêtres, les ruisellements de l'eau brisée par des corniches, comme des plateformes de sortie de secours. Sur le perron, sous les chutes d'eau, il y avait trois bonnes dans cette buée brumeuse, deux assises tout près du trottoir, des bonnes à la forte carrure marquée, balançant doucement des poussettes devant elles, et la jeune femme dans la cape sans manche debout sur le trottoir, un pied posé sur une marche de façon à avoir un genou soulevé pour y percher un enfant. Les trois bonnes étaient en train de regarder une femme âgée qui montait la rue, sa tête sous une capuche noire, qui lui faisait une tête en forme de bloc, avec ses mains serrées ensemble devant elle d'une manière guindée, elle portait une petite sacoche prétentieuse. Cette femme poussait du pied devant elle un morceau plié d'emballage de tabac. Finalement elle s'arrêta et le ramassa, parce que pour quelqu'un avec seulement les dollars en tête, il ressemblait assez à un billet d'un dollar. Madame Kiké, la vieille radine. D'une bonne. N'est-ce pas l'avare, une autre bonne. Ça possède une douzaine de maisons et sa vie ici. C'est pourtant comme ça qu'ils deviennent riches. On dit qu'elle pique des feuilles de chou dans le panier de l'épicier. Chut, taisez-vous. Bonjour, Madame Kiké. J'espère que vous allez bien ce matin. Vraiment? Madame Kiké est à côté d'une poussette. Sa tête en arrière, et la sacoche prétentieuse tenue haute avec les deux mains, Madame Kiké caquette d'un rire railleur, puis, fougueusement, vraiment? Oh, j'apprécie la sincérité, oui. J'aime entendre les gens dire ce qu'ils pensent. J'aime la sincérité. Oui, Madame Kiké, on ne peut pas faire confiance à ceux qui ne sont pas sincères. Madame Kiké prend un journal dans une poussette. Est-ce le journal de ce matin? Je n'avais pas un penny sur moi. C'est du vol de devoir acheter un journal chaque matin pour suivre l'affaire du kidnapping. Cette pauvre mère. Mon cœur est avec elle. J'ai les moyens, mais je n'avais pas un penny sur moi. Voyez ça. Pointant avec indignation le journal, que, avec la sacoche, elle tenait dans la main gauche, juste une ligne. Heureuse de ne pas l'avoir acheté. Montant les marches du perron, elle toucha gentiment l'épaule de la bonne sans manche, qui retira son genou avec son fardeau pour laisser le passage, et dit, j'apprécie la sincérité. Sa tête penchée très en arrière, la sacoche dressée dans ses deux mains, et le rire caqueteur, railleur. Allez, malheur à elle. Quand elle fut trop loin pour entendre. La vieille arnaqueuse, avec tout l'argent qu'elle a. Là. Là. Da. Da. Est-ce qu'il s'est réveillé? Et ne dépenserait pas un cent pour un journal? Oui. Oui. Où est Molly? Mademoiselle Guffy apparaît à la porte, une mademoiselle Guffy miteuse mais vive, couchée de soleil dans une atmosphère enfumée, une ceinture couleur saumon, un ruban vermillon autour de son cou, des rubans verts éclatants à ses coudes. Cieux miséricordieux! Cria mademoiselle Guffy, claquant des mains, levant les yeux en l'air comme si elle était témoin d'un désastre effroyable, c'est vous? Nom d'issime. C'est vous? Son rictus nerveux déformant sa bouche. Entrez directement, monsieur. Tout le monde est en place et en train de déjeuner. Était-ce vous qui frappiez à la porte? Je cours juste pour une miche de pain. Avez-vous déjeuné? Allez-y entrer, monsieur. Elle descendit le perron, regardant en arrière pour agiter sa main vers le hall, répétant, allez-y entrer, monsieur. Et descendit la rue, remontant son épaule gauche, de sorte que ses épaules paraissaient à la même hauteur, très voyante mademoiselle Guffy, difforme en saumon, vermillon et vert lumineux. Est-ce que ce n'est pas le comble? Réflexion des bonnes dans la brume. Oui. Oui. On penserait que quelqu'un d'aussi infortuné s'habillerait discrètement en essayerait de passer inaperçu. Oui. Oui. Oh, vilain enfant, je vais vous fesser si vous ne laissez pas cette robe propre du matin hors du caniveau. Oui, si c'était la volonté de Dieu de m'affliger ainsi, je resterais parfaitement discrète et hors de vue. Lorsque Mademoiselle Guffy revint, elle portait un chou ainsi qu'une miche de pain. Mademoiselle Guffy, affligée, mais provocatrice, remarquable, dans sa difformité, en saumon, portant du verre éclatant dans son refus de s'effacer parce que difforme. Miséricorde! Vous n'êtes pas encore entré? Eh bien, je n'en avais pas envie, dissime. Je veux dire, je n'en avais pas envie juste maintenant. Vous n'aviez pas. Vous n'aviez pas, vraiment. Entrez maintenant, alors. Dans le bureau de la Universal Manufacturing Company, Madame Beertwistle était en train de frire un steak, et Sim vit la raison de la vague impression de monstre des profondeurs marines sur les murs verts. C'était trop de dérangement de couper des bâtons à la taille du poêle, avec un poêlon branlant. Madame Beertwistle était en train de frire sur un feu de bâton trop long et protubérant, laissant un espace entre le poêle et le poêlon, d'où montait la fumée. « Bonjour, Madame Beertwistle, » dit Sim, essayant d'exprimer de sa voix que c'était vraiment un plaisir de revoir Madame Beertwistle. « Bonjour, » répondit Madame Beertwistle d'un ton maussade, faisant frire le steak, lui gardant le dos tourné. Et les tentatives de Sim de s'en attirer les bonnes grâces. Belle matinée, il devrait faire très chaud, vraisemblablement, mais le soleil est si éclatant. Vous pouvez vous asseoir là-bas, je suppose. Dit Madame Beertwistle, en vert qui s'était flétri en jaunâtre, secouant une main vers le sofa profondément échancré, entre les fenêtres de façade. Messieurs Beertwistle et Parker étaient en train de déjeuner dans la pièce au-delà des blouses. Comme des rideaux, une lampe était en train d'éclairer là, et, entre les rideaux à cheval sur une tringle, Sim, bien qu'il regardait dans cette direction seulement à la dérobée, entrevit cette pièce. Monsieur Beertwistle l'appela affablement, « Arak, mon fils. Avec nous? Oiseau matinal, hein ?» Désaperçu de cette pièce intérieure, une pile de vaisselle sale en équilibre précaire sur le bout d'une longue table, messieurs Parker et Beertwistle à l'autre bout, derrière eux, contre le mur, un tas de linge attendant un baki. Dans la pièce de devant, Madame Beertwistle accent aigu a été en train de dire impuissante et Mademoiselle Guffy, où est la clé de la remise du bois? Puis, vous avez vu mes épingles à cheveux? Laissant le poil, tournant en rond, une main cherchant sur les tables, et le long du manteau de cheminée. Je ne l'ai pas, ma fille. Mademoiselle Guffy est dans une attitude languissante, et pendant ce temps sa coiffure arrondie, comme un scarabée, ses fesses, un gros scarabée penché, sur son épaule la plus haute, un scarabée galvanisé, Mademoiselle Guffy crie, j'aurais été de retour il y a une demi-heure, si ce n'avait été à cause de l'employé de Monsieur Dickerman qui m'a retenu. Il me retient, et me parle, il n'y a pas moyen de le quitter. De fait, Madame Guffy, sont ses propres mots en s'adressant à moi, si je n'étais pas un homme marié, vous seriez la première femme à laquelle je penserais, calculé de sa part. Je lui dis, je ne me marierai pas avec le meilleur homme vivant. « Votre mari est-il mort depuis longtemps ? Me demande-t-il ? Je lui dis. Ma femme, dit-il, est de santé très délicate. Bien sûr, dis-je, elle n'a jamais été votre égale à la première place. Je suis désolé pour le pauvre homme, avec ses éternelles factures de médecin, il voudrait bien être débarrassé d'elle. Mais ce chou ici, c'est ce que j'ai reçu pour lui laver ses vestes blanches. Oh, oh! C'est la façon de se débrouiller. J'aurais lui aussi une boîte de maïs, si Monsieur Dicker n'en était pas rentré juste à ce moment. Avez-vous vu mes épingles à cheveux? Demanda Madame Birtwistle, cherchant et cherchant à des endroits où elle avait cherché et cherché avant. Sur les tables du bureau c'étaient des nappes blanches, chacune portait en lettres rouges le nom d'un hôtel, souvenir, donc des nappes blanches propres, et le centre d'un miroir au-dessus de la place où Simassi avait été poli, une bordure de verre graisseuse autour du point propre. Vous sentez-vous vraiment bien ce matin, Madame Birtwistle? Sankissim, faisant tout son possible pour s'attirer les bonnes grâces de qui n'était pas bien disposé envers lui. Avez-vous vu des épingles à cheveux? Oh, oui, je suis bien, je suppose. Regardez le steak, Guffy. Je souhaiterais presque qu'il pleuve, Guffy. Et je sortirai vite fait accrocher du linge sur la corde, et il se laverait comme ça. Apparition de Monsieur Birtwistle. Chemise propre d'une couleur jaune store de fenêtre, large comme un store pas très large, la face plate de Monsieur Birtwistle au-dessus, comme une face appuyée et regardant par un store entr'ouvert. Monsieur Birtwistle traînant des pieds dans de super pantoufles de velours, chacune brodée d'un aigle rose et violet, se frottant vivement les mains, s'exclamant, au travail, ça ne se fera jamais. Asbury, au travail. Rack, mon fils, au travail. Quoi, quoi? Vous et Mademoiselle Guffy êtes sortis pour marche matinale ensemble? Jamais, je ne le fais jamais. Delia, vous devez voir Mademoiselle Guffy. Vraiment, dit Mademoiselle Guffy languidement, Scarabée se penchant sur son épaule plus haute, le gentleman ne voudrait pas être vu tout avec mes semblables. Pas du tout, dit Sim désorienté. Au travail, vous pouvez entrer et manger, Mademoiselle Guffy, si Asbury a laissé quelque chose pour vous. Asbury, Asbury, si je ne vous ai pas oublié, Guffy, dit Madame Birtwistle. Je suppose que vous pouvez avoir un peu de mon steak. Ne vous en faites pas pour moi, ma chère fille. Bien sûr, n'importe quel reste feront l'affaire, répondit Mademoiselle Guffy, allant nonchalamment à la pièce intérieure, Asbury Parker venant nonchalamment, ne remarquant pas Sim, va à la table la plus près de la fenêtre de devant. S'étirant sous la table, tirant la machine à écrire, qui avait été sur le sol toute la nuit, souffle la poussière qui la recouvrait. Monsieur Birtwistle, dit Sim, avec tous les signes d'un grand effort, vous, eh bien, vous n'avez rien arrangé avec moi. Au travail. Tout le monde au travail. Sim fit une allusion sans conviction, et émouvante derrière la tête de Monsieur Parker. « Vous savez, dois-je m'asseoir ici ?» Désignant la table près de la porte, ne cherchant plus à dire tout ce qu'il voulait dire. « Oh, n'importe où !» dit Monsieur Birtwistle, se glissant dans la forme sur le canapé que Sim avait laissé. « Mademoiselle Guffy vous montrera quoi faire, ou Asbury le fera. Où est le journal du matin ?» Monsieur Birtwistle s'étire sur le sofa, les pieds pendants, les pantoufles suspendues perpendiculairement aux orteils. Delia. Mademoiselle Guffy a-t-elle apporté le journal? Peut-être sortira-t-elle pour aller me le chercher? Comme une bonne âme, Mademoiselle Guffy? Je vais le faire, en effet, dit Mademoiselle Guffy apparaissant entre les rideaux bleus. Et avec plaisir. Et serai de retour dans une minute. Non, je n'ai besoin d'aucun argent. En allant à la porte du hall, je faucherai un journal sous mon bras quand personne ne regardera. Madame Birtwistle, derrière les rideaux, se plaint. Où est le couteau? Je l'avais il y a une minute. Où est le couteau? Et je viens juste de m'en servir. Envoyez-le au diable, Guffy. qu'il attendait qu'il se procure ses propres journaux. Quel langage grossier ici! Quel langage grossier! Dit M. Beertwistle avec indifférence, allongé, claquant ses mains, pour essayer d'attraper des mouches. J'ai l'œil sur vous, chien paresseux. Murmure derrière les rideaux. Sim, embarrassé par ses petites piques conjugales, est assis à la table de Mademoiselle Guffy, se tortille d'une position incommode à une autre. Bonjour. Dit Asbury Parker, en se tournant vers Sim. Asbury, dit Monsieur Beertwistle, en attrapant des mouches, nous aurons de nouveaux entêtes de lettres imprimées, ceux-ci ne nous donnent pas assez d'importance. Nous devons imprimer des adresses, oh, n'importe quelles adresses feront l'affaire, de nos succursales de Londres, Paris et Berlin, et parler d'ici comme le siège social. Et beaucoup de banques, aussi, Asbury, comme référence, personne ne regarde jamais les références. Quelles sont les banques les plus importantes, Asbury? Je ne connais pas grand-chose des banques, en attrapant des mouches. Il y a quelques lettres dans le dossier, si vous voulez y jeter un œil, dit Asbury Parker à Sim. De sous la table il sortit le dossier qui était le bec d'un bidon d'insecticide, avec des lettres empêlées dessus. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas quoi faire. Dit nerveusement, désespérément par Sim. Vous ne savez pas? Dit Asbury Parker. Et, disait Monsieur Beertwistle, imprimez quelque chose au sujet de notre département de vente, et indiquez notre adresse par câble. Que dites-vous de Whistle Beer? Pourquoi mélange-t-il le nom pour l'adresse par câble? Je ne sais pas mais je pense que ça ajoute une touche de fini. Que dites-vous d'un numéro de téléphone longue distance, Asbury? Ça ajoute de la finition ça aussi. Mademoiselle Guffy, de retour. Tous les journaux du matin sont épuisés. Voulez-vous que je voie si je peux avoir un journal du soir? Je le ferai avec plaisir. Aucune importance, Mademoiselle Guffy, je suis occupée maintenant. Je suis affairée, en ce moment même. Vous avez déjeuné? Vous feriez mieux de commencer à plier des catalogues. Tout va bien, Monsieur Rack? Vous apprendrez. Mademoiselle Guffy prend une chaise pour s'asseoir près de la fenêtre et plier des catalogues. Sim bondissant. Oh, est-ce que je suis à votre place, Mademoiselle Guffy? Excusez-moi. Bien sûr, restez assis où vous êtes. Et rudement, ne nous faites pas rire, quittez votre place pour faire plaisir à la pauvre Guffy. Non, mais, ne nous faites pas rire, cher monsieur. N'importe quelle place est assez bonne pour Guffy. Mademoiselle Guffy fait signe, semblant en colère, à Sim de se rasseoir, se tourne vers sa chaise près de la fenêtre, et trouve dessus les pieds de Monsieur Beertwistle. Madame Beertwistle. Madame Beertwistle dit en ricanant, c'est juste ce qui vous convient. Allongez sur le dos et attrapez des mouches. Maintenant vous faites ce à quoi vous êtes destiné. Vous cessez de me déranger. Je vous dis que je suis occupé. Nous mettrons sur les entêtes de lettres, Président Beertwistle, secrétaire Parker, et trésorier Rack. Ne riez pas, Rack, mon fils. Quand nous irons de l'avant, ce ne sera pas une petite chose, que d'être notre trésorier. Ailleurs à Trestar, dans le Nebraska, un jeune homme dans ce business a fait une centaine de milliers de dollars en 2 jours. Pour l'amour de Dieu! Qu'est-ce que vous faites maintenant? S'exclama Madame Beertwistle. Les pieds sur une chaise où les gens vont s'asseoir. Vous sale fainéant, vous ne serez jamais bon à rien. Si je me lève pour vous. Dit Monsieur Beertwistle, s'appuyant sur un coude, retombant en arrière. Pardonnez-moi, Mademoiselle Guffy. Mais que dois-je faire? Demande Sim nerveusement à Asbury Parker. Ce sont des lettres de réclamation, expliquait Monsieur Parker. Oui, mais quoi? Elles contiennent des réclamations, expliquait Monsieur Parker. Mademoiselle Duffy est assise à la fenêtre et, avec une pile de catalogues à côté d'elle, et une planche sur les genoux. Oh, comme on est belle! Un tel air, oh, mon Dieu! Mais ne sommes-nous pas belles ce matin? Disait Mademoiselle Duffy, regardant avec amertume une femme bien habillée qui passe. Peu importe mes pieds, grommela Monsieur Birtwistle. C'est étonnant que vous ne fassiez pas quelque chose vous-même. Tout se retrouve sous le sofa, pour entretenir la maladie d'ici. Si vous n'étiez pas tellement occupé à ne rien faire, vous n'auriez pas autant à voir. Mademoiselle Duffy marmonnait grimace à la femme qui avait éveillé son amertume. Des lettres de réclamation? Demandait-il désespérément, que dois-je en faire? Elles contiennent des réclamations. Puis, après un moment, Sim jeta un coup d'œil autour de lui. Il chuchota, « Combien gagnez-vous ici, Monsieur Parker ?» Monsieur Parker se frotta le front. « Eh bien, Monsieur Rack, » dit froidement Madame Birtwistle, fusillant Sim du regard par derrière, elle était encore en train de chercher ses épingles à cheveux le long de la cheminée. « Que pensez-vous des Maïfis ? Je n'ai pas fait très attention à eux. » Dit Sim avec indifférence, mais ensuite, il se retourna et demanda brusquement, « Est-ce vrai que Monsieur Maefi est un ex-détenu ?»« Oh, honte sur vous, Rack !» dit Monsieur Birtwistle. « Faire des commérages comme ça. Quoi qu'il en soit, laissez-moi penser, je suis occupé. » Un geste brusque du bras, et cette fois il attrapa une bouche, que, entre un index et un pouce, il l'enca à travers la pièce. « C'est vrai pour vous !» dit Madame Birtwistle avec impatience, allant au bout de la table ceci mais se penchant sur elle. « N'est pas un vrai miracle qu'elle n'ose jamais ouvrir sa bouche dans cette maison ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Monsieur Rack ? Eh bien, elle y a fait quelque allusion, je crois. Je ne me rappelle pas comment c'est venu. Le pauvre diable. Je suis désolée pour lui, dit Mademoiselle Guffy. Il a brûlé quelques chevaux pour toucher l'assurance, mais il a été gracié complètement. C'est une brute. C'est ce qu'il est, une brute malfaisante. Dit Mademoiselle Guffy. Le son de juron indistinct jaillit d'une pièce à l'étage, le juron répété, mais cette fois, au lieu d'être crié avec colère, il sembla proféré comme pour émouvoir. « Ce pauvre homme en train de mourir, » dit Madame Birtwistle à Sim. « C'est le vieux Monsieur Strou, il ne durera plus longtemps maintenant, parce qu'il a déjà eu deux attaques. Vraiment ? Oui, la seconde lui a enlevé la parole sauf un juron qu'il avait toujours à la bouche quand il allait bien. Maintenant c'est tout ce qu'il peut dire. » Et il le crie quand il perd la tête pour quelque chose, et alors ses filles baissent les stores pour obscurcir la pièce, comme vous couvrez la cage d'un perroquet pour qu'il se tienne tranquille. Il suffoque dans l'obscurité, et essaie de leur dire qu'il sera tranquille si seulement, elle lui donne de l'air et de la lumière, mais son juron est tout ce que ses lèvres peuvent articuler, alors il le gémit ou le rugit. Vous pouvez dire au son s'il est en colère ou s'il est implorant. Mais, Bir, dit Madame Birtwistle, je ne crois pas que ce soit très correct de votre part de laisser Monsieur Rack livrer à lui-même de la sorte. Ne vous ont-ils pas dit quoi faire, Monsieur Rack? Alors je vais vous le dire. Ce sont nos annonces qui ne nous donnent pas satisfaction. Vous pouvez rédiger des annonces, n'est-ce pas? Mais d'abord vous devez savoir ce que nous voulons. Ah, c'est une grande chose que d'avoir reçu une éducation. Aussi, Monsieur Rack, ne faites rien d'autre jusqu'à ce que vous appreniez nos exigences. Je vous donnerai du matériel imprimé, et ne faites rien sauf le lire jusqu'à ce que vous compreniez nos besoins. Une femme à la porte. Une femme avec une grosse tête, portant un petit chapeau rond, un voile noir, du chapeau, en un cylindre autour de sa tête, un nez massif, les dents du bas proéminentes, presque horizontales, et forçant très en avant sa lèvre inférieure. Ah, Madame Kilgore, dit Monsieur Birtwistle, pas très intéressé. Vous devrez m'excuser. Je suis si occupé, mais entrez, vous ne me dérangez pas. Je suis si occupé, Madame Kilgore. C'est le cas. Interrompit la femme d'une voix profonde, basse. Oh, oui. J'ai oublié, excusez-moi, Madame Melody voulais-je dire. Et comment va Monsieur Melody? Les genoux m'embêtent, dit Madame Melody, se penchant pour frotter ses genoux, faisant tomber des carottes d'un sac en papier. Est-ce que les genoux ne vous embêtent jamais, Birtwistle? C'est les rhumatismes. Est-ce que les genoux ne vous embêtent jamais, Guffy? Sim propose sa chaise à la femme, mais Madame Birtwistle apporte une chaise d'une autre pièce. Sim ramasse les carottes, la visiteuse s'assied entre la chaise de Sim et le poêle, Madame Birtwistle commence par s'asseoir sur la table de Sim, mais après s'appuie contre le mur. Avez-vous du feu allumé, Madame Birtwistle? J'étais en train de penser, si vous étiez en train de bouillir quelque chose, je pourrais mettre mes carottes dans le chaudron, et économiser les deux feux par cette chaude journée, assise, frottant ses genoux. Bien sûr, laissez les carottes. Vous êtes encore là, Madame Kilgore? C'est ça. Oh, excusez-moi, Madame Melody, j'oublie. C'est mon jour de repos, Madame Birtwistle, vous savez. Et vous n'allez pas revenir travailler. Enfin non. Mon vieil homme gagne pas mal d'argent maintenant. J'étais seulement là-bas jusqu'à ce que nous nous en sortions. Et comment va Fanny? Mais vous pourriez gagner pour vous-même. C'est trop bête que vous n'ayez pas été travailler là, il y a eu 6 empoisonnements avec le cornet beef, et 2 à l'hôpital. Oh, le salaire? Chuchota Monsieur Parker à Sim. Je pourrais l'écraser. Ça venant de Mademoiselle Guffy, qui était en train de regarder un journal qu'elle avait tiré dessous le sofa. Je pourrais écraser n'importe qui devient riche en ce monde. Ils ne le peuvent qu'en volant et en éreintant le pauvre. Je pourrais l'écraser. Elle déchira le journal, et jeta les morceaux sur le sol. Et comment va Catherine, Madame Kilbody? Oh, Catherine. Florine n'en est jamais revenue. Oh, Catherine m'a demandé 2 ou 3 fois si je vous avais vu, moi ne signalant jamais que j'avais déménagé à côté de chez vous. Ceux qui ne savent pas, ne sera pas une information pour eux. Josie a demandé. Pas celle dans avec la ceinture verte? Vous savez, la maigrichonne. Elle avait une écorchure visible, s'exprimait d'une façon terrible, et l'intendant en train d'écouter. Vous savez la blonde? La grande, la nouvelle? Celle de l'essoreuse, avec la jupe écossaise. Elle doit m'avoir maudite. Dieu me pardonne, il valait mieux que je reste à l'écart de là. Est-ce que les genoux ne vous embêtent jamais, Guffy? Alors je reviens plus tard pour les carottes? Oui, et vous pouvez passer un de ces soirs, Madame Kilgore. Et allez, quel discours! Grommela Monsieur Birtwistle, quand la femme fut partie. Delia, vous ne devez pas parler de toutes vos affaires en public, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de ranger la pièce. Personne ne vit comme nous. Madame Maeffy a toujours les choses présentables. Allez-y et vivez avec Madame Maeffy. Dit avec fougue. Mossad rit pendant un moment, et puis, vais-je m'embêter avec ces vieilles carottes? Vraiment? Cuisez ces carottes, dit Monsieur Birtwistle avec un regard de sérieux judiciaire. Au travail. Au travail. Mais il remarqua un morceau de journal sur le sol. Dites, Ramassez ça, voulez-vous? Vous pouvez autant le faire que moi, rétorqua Madame Birtwistle, encore à la recherche des épingles à cheveux. Bon, apportez-moi une allumette. Pouvez-vous m'apporter une allumette? Allez chercher vous-même vos allumettes. Oh, malédiction! Dit Monsieur Birtwistle faiblement, s'allongeant sur le sofa, ses pieds étendus sur le sol, Madame Zoilel Guffy lui tend un morceau de journal à ramasser sur le sol, Monsieur Birtwistle le regarde une mouche sur le plafond, marmonnant, Madame Mayfi n'a jamais eu ses pièces dans cet état. Madame Birtwistle, taisez-vous. Réponse mécanique de Monsieur Birtwistle, cette pièce est choquante. Réponse mécanique de Madame Birtwistle, occupez-vous de vos affaires. Nous vivons comme des bêtes. Procurez-nous un logement décent, alors une femme pourrait travailler comme un cheval, ici, et ne jamais rien avoir en ordre. Je supporterai pas ça plus longtemps. D'un ton endormi. Bon, sortez alors. Personne ne vous veut ici. Sim poussa sa chaise fermement en arrière de la table, pendant un moment il sembla méditer, ravança sa chaise contre la table. « Ma petite chérie, dit Monsieur Birtwistle d'une voix traînante, seriez-vous assez aimable pour m'apporter une allumette? Pourquoi pas, certainement, chérie. » Sur un ton moqueur par Madame Birtwistle, mais elle alla aimablement jusqu'à lui, chercha dans ses poches de pantalon, et lui présenta une allumette. « Beaucoup. » dit Monsieur Birtwistle, manière paresseusement elliptique de dire merci beaucoup. Elle se montre sous un bonjour ce matin, n'est-ce pas, Mademoiselle Guffy? Grandiose. Dit Mademoiselle Guffy. Vous m'en direz tant. Dit Madame Birtwistle en riant. Elle passa par les rideaux bleus, et revint avec un balai sans manche. J'aime vos grands pieds. Vous savez, vous ne devez pas m'importuner de la sorte. Je suis occupée. Madame Birtwistle passa le balai sur la toile cirée du sol, et entre les pantoufles de velours, puis recula. Non, ne bougez pas, et, comme elle n'avait poli que le centre du miroir, elle ne nettoya que le centre de la toile cirée, à quatre pattes sur les mains et les genoux, levant les yeux pour sourire à Mademoiselle Guffy. Elle encore. Malheur à elle et à l'argent qu'elle n'a jamais honnêtement. Dit avec colère Mademoiselle Guffy. Martèlement sonore dans une pièce au-dessus. C'est la plus grande vieille voleuse du monde, sinon elle n'aurait jamais eu autant d'argent. Madame Kiki est en train de mettre une nouvelle serrure à sa porte, dit Madame Birtwistle. Elle a maintenant toutes les sortes de cadenas et de verrous à ressort. C'est une insulte à tout l'édifice de voir les verrous qu'elle a à ses portes. Oh, ça me rappelle! S'exclama Monsieur Birtwistle, en s'asseyant. Apportez-moi mon manteau, Mademoiselle Guffy. Allez-vous le faire? Demanda Monsieur Birtwistle, se levant. Mademoiselle Guffy lui tend son manteau, qui était sur le rebord de fenêtre, facilement à sa portée. Vous allez être assez sot pour ajouter un dollar à votre propre loyer, alors que personne ne vous le demande? Suis-je un indigent pour payer moins que les autres? Dit Monsieur Birtwistle avec agitation. Vous avez obtenu le logement pour un dollar de moins que n'importe qui d'autre paie. Si vous avez un dollar à donner, vous feriez mieux de le dépenser pour votre propre épouse. Moi payer moins que n'importe qui d'autre. Mademoiselle Guffy, voici 52 cents de timbre. Comme quelqu'un de bien, courez chez Monsieur Mkiké, et dites-lui que désormais nous paierons, autant que n'importe qui d'autre. J'irai bien moi-même, mais il pourrait y avoir quelqu'un devant moi, je ne peux pas supporter d'attendre pour quelqu'un dans le bureau de qui que ce soit. Ma maudite fierté, ma maudite fierté. Oh, malédiction! Je trouve que c'est très honnête de votre part, Monsieur Birtwistle, dit Mademoiselle Guffy. Très stupide, vous voulez dire. Ah, oui, c'est très stupide de sa part. C'est un vieil idiot et il le sera toujours. Sa fierté. C'est seulement pour se mettre en valeur et s'épater lui-même. Si je me lève pour vous. Vous. Vous êtes trop paresseux pour vous lever pour qui que ce soit. Impressionnez-vous vous-même, et votre veine avec tout ce qui lui appartient chez le prêteur sur âge. Oh, je ne resterai pas sans rien faire. Monsieur Aurac doit savoir tôt ou tard qui vous êtes. Le payez plus? Si je pouvais, je ne lui payerais rien. Très juste. Dit Mademoiselle Guffy, sautant toute excitée et claquant des mains. Ma bénédiction sur vous. Ma bénédiction sur quiconque ne payera rien. Vous feriez mieux de laisser passer un mois effilé, ou deux mois si nous pouvons, ou si ne pensez pas à une telle chose, je vous en prie monsieur Birtwistle. Regardez cette image qu'ils disent belle. Une femme de toute beauté, vraiment. Saint Péquenot. Une petite vieille ordinaire. Dieu sauve les bonnes poires. Tous les gens qui arrivent à être dans les journaux sont beaux, de nos jours. Murmurant, belle? Je ne vois pas en quoi. Belle, comment ça? Et quoi encore? Est-ce que c'était Madame Kilbor? Demanda Asbury Parker. Mademoiselle Guffy, apporterez-vous cet argent à Monsieur Mkiquet? Oh, je suppose que je dois, si vous le dites. Je le ferai, si vous le voulez. Proposa Sim avec hésitation. Oh, monsieur Aurac, je ne veux pas vous ennuyer. Ça ne gêne pas mademoiselle Guffy. Je trouve que ce serait très aimable de votre part, monsieur, dit mademoiselle Guffy. Ça me rend malade de m'approcher d'eux. Ça me démoralise avec un mal de tête pour le reste de la journée de voir. Qui que ce soit qui s'en tire dans le monde en dérobant et en volant les pauvres. C'est un vieux voleur d'usurier. Entreprise immobilière, qu'en dites-vous? Non, mais un vieux voleur qui vole, et se rend les pauvres avec ses 12%. Les vieux grippent sous pour vivre ici, dans cet immeuble, quand ils ont suffisamment d'argent pour vivre sur la 5e avenue. Comme elle est propre. Même si elle vit ici parmi nous, achetant du bois et demandant au bûcheron de le laisser à la porte, pour y rechercher les cafards, oui, diable, oui. Claquant un poing qui voyageait sur le mur. Avant qu'elle apporte le bois dans ses appartements. Et quand elle prend les transports publics, apportant un journal avec elle pour s'asseoir dessus. Nous payons tout le monde avec des timbres. Dit Monsieur Birtwistle, se dressant sur ses pieds, laissant sur l'éclat de la toile cirée mouillée deux empreintes de pieds ternes, et sèches où ses pieds étaient appuyés. Bon, est-ce que les timbres suffiront? Oh, oui, nous réglons nos affaires d'argent en timbres, mais si vous voulez être assez aimable pour monter au bureau, c'est la pièce au troisième niveau, juste au-dessus de celle-ci. Bon, voyez-vous, dit Sim, bégayant, faisant un grand effort pour parler, rougissant, je n'ai pas l'intention de faire les commissions de qui que ce soit. Je veux dire que je fais ça pour mademoiselle Guffy. Bégayant encore plus, faisant un effort encore plus grand. Je ne fais pas le garçon de course pour vous, monsieur Birtwistle, vous savez. Oh, bien sûr. Maintenant, Delia, ne permettez pas qu'on me dérange, je suis très occupé, et je ne dois pas être dérangé.